Ce matin, nous poursuivons notre périple dans le livre de Galates. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Mort à la loi, vivant pour Dieu ». Alors, nous lirons le passage dans Galates 2, et le verset 19, Galates 2, 19. « En effet, par la loi, moi-même, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. » Prions. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin pour ta parole. Nous venons vers toi, Seigneur, parce que c'est toi qui es notre Dieu, Seigneur, et c'est toi, Seigneur, qui donne des dons à l'Église, Seigneur. Et Seigneur, nous te prions, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, avoir des yeux pour voir ce matin, des oreilles pour entendre, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que l'homme sage bâtit sa maison sur le roc et non pas sur le sable. L'homme sage va écouter ta parole, Seigneur, et va la mettre en pratique. Seigneur, nous te prions ce matin que nous soyons de bons écouteurs, Seigneur, et de bons pratiquants. Alors, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. À tous les jours, nous recevons du courrier par la poste et la plupart du temps, ça va à la poubelle. Il y a beaucoup, beaucoup de publicité de toutes sortes. Mais il y a des fois qu'une lettre arrive et ne va pas à la poubelle. Elle est plutôt lue et relue. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il y a des fois... Il y a des fois que cette lettre peut être plus personnelle, elle vous est adressée personnellement. Peut-être que cette lettre vient d'une personne qui est importante dans votre vie, un ami, un parent, un père, un frère, une sœur. Elle peut contenir quelquefois des choses importantes, qui sont d'intérêt, des informations qui peuvent radicalement altérer ou affecter votre vie. Peut-être est-ce la nouvelle d'un mariage, de la naissance d'un enfant, de la mort de quelqu'un, un divorce. Il y a plein de facteurs. Vous savez cependant que la Bible contient plusieurs lettres. Celle-ci, la lettre épître aux Galates, en est une. Chaque lettre ou épître, une lettre c'est une épître, dans la Bible est très très importante. Et une de ces lettres que nous étudions depuis un certain temps est une des plus grandes lettres écrites par l'apôtre Paul. Ce qui fait qu'elle soit si importante est qu'elle est écrite par un homme, je ne veux pas dire un homme comme tel, mais par un homme Paul, un homme nommé Paul. Et qu'elle est écrite de façon très personnelle à des gens qu'il connaissait. Elle est écrite à des gens dont il a influencé profondément la vie. La plupart de ces gens, peut-être tous, ont été sauvés sous son ministère évangélique. Ces églises en Galatie ont été fondées et établies par Paul, et il est leur père spirituel. Mais une autre raison pourquoi cette lettre est si importante et pourquoi elle demande notre attention particulière est le fait qu'elle traite de sujets très, très importants. Peut-être qu'aucune autre grande doctrine dans toute la Bible que la doctrine de la justification par la foi. Et cette doctrine est mise en évidence dans cette lettre particulière ici aux Galates. Nous avons besoin de lire cette lettre à travers les lentilles, si vous voulez, ou dans le contexte historique dans lequel elle a été écrite. Il y a une guerre qui se déroule. Nous sautons sur le champ de bataille lorsque nous abordons cette épître. Un des pères de l'Église a cité Lorsque vous lisez l'Épître aux Galates, vous entendez le tonnerre qui vient avec une puissance explosive. Il siffle avec passion, avec colère et même douleur et choc. Pour comprendre tout cela, vous devez revenir en arrière au chapitre 1 au verset 6. Ce verset projette une ombre sur toute l'Épître. Il nous est dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Nous devons grossir notre lentille sur un petit bout de phrase, ou plutôt deux mots, « un autre évangile ». Cela résume, capte, identifie cette épître, pourquoi elle a été écrite. Elle a été écrite parce que ces gens en Galatie qui ont entendu le vrai évangile sont maintenant en danger d'être épris, hypnotisés par un faux évangile, un autre évangile. Ainsi, Paul, lorsqu'il écrit cette lettre, il attaquera le faux évangile. Il va mettre l'accent sur le vrai évangile de Jésus-Christ. Donc, ces églises sont au milieu d'une crise en rapport avec l'Évangile et la relation à la loi de Dieu. Ce matin, nous allons chercher à comprendre l'Évangile de Jésus-Christ, l'Évangile de la justification par la foi seule, en contraste à l'Évangile des œuvres de la loi ou l'Évangile basé sur les mérites humains ou les efforts humains. Alors, nous allons considérer tout cela sous trois aspects, en laissant le texte lui-même parler. Donc, si vous étiez un chrétien à la lumière de Galates 2, 19, vous êtes mort à la loi. Si vous étiez un chrétien à la lumière de Galates 2, 19, vous êtes mort par la loi. Si vous êtes un chrétien à la lumière de Galates 2, 19, vous êtes vivant pour Dieu. Donc, vous êtes mort à la loi, mort par la loi, et vous êtes vivant pour Dieu. Peut-être que cela n'a pas de sens pour vous ici ce matin, mort et vivant. Ça sonne un peu comme un, vous savez, un poster dans ces vieux films western, c'est marqué une tête d'affiche, c'est marqué mort ou vif. Eh bien, c'est la vérité de l'Évangile, déployée ici. La mort et la vie. Donc, notre premier point, vous êtes mort à la loi. Commençons par penser concernant la loi. C'est un mot important de la Bible. Ce n'est pas toujours facile de comprendre exactement ce qui est dit lorsque vous trouvez ce mot « loi » dans votre Bible. Il y a plusieurs significations. Quelquefois, il signifie tout l'Ancien Testament. Quelquefois, ce mot fait référence à la religion mosaïque, la loi sur la nourriture, les jours de fête, tous ces rituels, qui sont appelés les lois cérémonielles rituelles. Quelquefois, le mot « loi » met l'accent étroitement sur les 10 commandements, le décalogue. Ces commandements qui furent écrits sur des tables de pierre. Mais si important que soit le fait que vous vouliez comprendre la loi, vous ne pouvez échapper au fait que la loi joue un grand rôle dans la vie de l'histoire du peuple de Dieu. Ce mot « loi », en grec, c'est le mot « nomos », que nous trouvons dans la Septante, la traduction de l'Ancien Testament. Il est utilisé quelque 400 fois. Dans le Nouveau Testament, quelque 200 fois. L'apôtre Paul utilise le mot « nomos » dans Galates 2, quelque 100 fois. C'est un mot important. Vous ne pouvez comprendre votre Bible. À savoir pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde, vous ne pouvez réellement comprendre pourquoi il est mort sur la croix. Vous ne pouvez comprendre l'épître écrite aux Galates si vous ne comprenez pas le mot « loi ». Ce qu'il signifie. Mais qu'est-ce qu'il signifie? Eh bien, pour comprendre ce qu'il signifie, vous devez réellement penser concernant la loi à la façon que les Juifs pensent concernant la loi. Nous devons nous placer dans les souliers des Juifs. Ils étaient instruits sous la loi. Ils étaient enseignés de la loi dès qu'ils pouvaient entendre. Ils mémorisaient la loi, ils méditaient la loi, ils étudiaient la loi. Pour les Juifs, la loi contrôlait et régulait tout dans la vie. La nourriture qu'ils mangeaient. Vous trouvez des lois dans l'Ancien Testament pour leur dire qu'il y a certaines nourritures que vous pouvez manger et certaines que vous ne pouvez pas manger. Les vêtements qu'ils portaient, certains vêtements qu'ils ne pouvaient porter et certains qu'ils pouvaient porter à cause de ce que la loi stipulait. Il y avait cette application de la loi dans leur vie sociale, dans leur vie maritale, leur vie civile. Et souvent de fois, lorsque nous pensons à la loi, elle a été catégorisée de manière utile, comme ceci. Il y a la loi civile, on a déjà entendu la loi civile, la loi cérémonielle, ça vous dit certainement quelque chose, et la loi morale. Donc, loi civile, loi cérémonielle et loi morale. Ce sont des distinctions utiles et vous ne les trouverez pas nécessairement faites dans l'Ancien Testament. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il y a un changement radical qui a pris place. Le docteur Sinclair Ferguson mentionne dans son commentaire concernant la mort de Christ et comment cela a changé la loi. Il dit « La mort de Christ agit comme un prisme qui brise, met en morceaux la loi dans ses parties composantes qui sont le cérémonial, le civil et le moral. Elle le démolit. » Ainsi, lorsque vous prenez le Nouveau Testament, vous commencez à voir de manière dont vous ne pouviez voir dans l'Ancien Testament, du fait qu'il y a des distinctions faites en termes de la loi. Mais pour le croyant de l'Ancien Testament, la loi, c'était la loi. Toute sa vie était liée par elle, liée par la loi. Il ne classait pas différentes parties de sa vie pour être régi par la loi morale ou cérémonielle ou civile. La loi était la loi. Dans toute son intégralité, c'était la loi unifiée. Alors, la loi formait un tout. Le juif typique n'avait pas de problème avec la loi de Dieu en tant que standard d'obéissance. C'était quelque chose qu'il avait appris, qu'il estimait, qu'il appréciait, en tant qu'un cadeau depuis le début. Il savait que Dieu était Dieu. Il savait que Dieu était le Dieu saint, créateur, souverain, et que le Dieu était celui qui avait donné la loi. Pour le juif, la loi était bonne, elle était juste. Parfois, les chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils parlent concernant la loi, ils donnent l'impression, ils pensent qu'elle est mauvaise, qu'elle est néfaste. Eh bien, cela n'a jamais traversé l'esprit d'un juif. C'était complètement étranger de la façon dont un juif pouvait penser au sujet de la loi de Dieu. Chaque juif, et j'ajouterais chaque chrétien, chaque croyant, devrait dire comme Paul dans Romains 7, 12. Ainsi, la loi est sainte et le commandement saint, juste. Et bon. Rappelez-vous, la loi a été donnée par Dieu. C'est sa loi. Comment pouvait-elle être mauvaise si elle a été donnée par Dieu? Comment pouvait-elle être moins bonne ou moins sainte? Maintenant, c'est ici que le juif est confus et terriblement égaré dans la façon de penser et de vivre en rapport à la loi. Il commence réellement à penser qu'il pouvait garder la loi dans toute son intégralité. Du fait qu'en faisant, qu'on pourrait dire, ou qu'en accomplissant la loi, il pourrait établir sa propre justification. Et pour utiliser le langage de Romains 2, 17, où il nous est dit, « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. » Et au verset 23, « Toi qui te fais une gloire de la loi. » Donc, le Juif typique se voyait lui-même comme un observant de la loi et croyait que par la nécessité de garder, d'observer la loi, il gagnerait son ticket pour le ciel. Il a transformé la loi en l'Évangile. Il a fait de la loi son Évangile. Et c'est un peu comme l'exemple que je vais donner, comme cet enfant, vous avez entendu certainement concernant le Père Noël, Santa Claus en anglais. La plupart d'entre nous avons été élevés sur l'histoire du Père Noël. Nous avons tous cru qu'il existait jusqu'à... Donc, je vais vous décortiquer un peu le chant original. En anglais, c'est « Santa Claus is coming to town ». Le Père Noël arrive en ville. La traduction française a été quelque peu truquée, mais si on traduit mot pour mot ce qui est dit dans ce chant-là, il nous est dit, les strophes, je vais vous les dire. « Tu ferais mieux de faire attention. Tu ferais mieux de ne pas pleurer. Tu ferais mieux de ne pas bouder. Je vais te dire pourquoi. Le Père Noël arrive en ville. » Alors, la deuxième strophe, « Il a fait une liste. Il l'a vérifiée deux fois. Il va trouver qui a été sage ou méchant. Le Père Noël arrive en ville. » Et l'autre strophe, « Il t'a regardé quand tu dormais. Il sait quand tu te réveilles. Il sait si tu as été bon ou mauvais. Le Père Noël arrive en ville. » Donc, si vous avez été bon, devinez quoi? Eh bien, vous avez des cadeaux. C'est un peu la pensée qu'on avait quand on était tout petit. J'espère que c'est plus comme ça, là. Chaque année, nous avions des cadeaux. Nous assumions que nous avions été bons. Et c'est ainsi que la plupart des gens pensent. Nous avons tous ce que quelqu'un a appelé un « pharisien », entre guillemets, vivant dans notre cœur. Le pharisien, l'homme qui aime se vanter, se fanfaronner, se booster, comme on peut dire en français commun, de ses accomplissements. Le pharisien qui aime penser à lui-même, il pense réellement qu'en faisant ce que je fais, je vais parvenir au ciel. Les monastères, les couvents, les églises sont remplis de gens qui pensent ainsi. Si je suis bon, si j'obéis à la loi de Dieu, je vais m'approprier le ciel. C'est le salut par les œuvres, les œuvres de la loi. Écoutez bien, c'est le plus grand mensonge du diable. Et ce l'est. La plupart des gens le croient parce que leur propre orgueil veut le croire. Mais c'est le plus grand mensonge du diable. Et c'est une des choses les plus difficiles que de convaincre les gens qu'ils ne sont pas bons. Pour les convaincre qu'ils ne sont pas bons ou qu'ils ne peuvent pas être justifiés par les œuvres de la loi. Mais notez ce que Paul dit au verset 16. Nous l'avions déjà mentionné la dernière fois. Il ne pourrait pas le dire plus énergiquement. Il le répète trois fois au verset 16. « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » S'il devait y avoir un homme vivant sur la planète Terre, sur laquelle nous sommes, qui aurait pu être justifié par les œuvres de la loi, devinez qui cela aurait pu être. L'apôtre Paul. Son nom fut un temps Saul, ou Saül, je ne me rappelle jamais c'est quel qu'il faut dire. C'est ça. Si vous tournez dans Philippiens 3, nous voyons qu'il a un CV assez impressionnant. Vous ne trouverez personne mieux dans toute la Bible en termes de performance religieuse, d'action religieuse, de privilèges religieux. Ce gars, pourrions-nous dire, les avait toutes. Voyez ce qu'il dit au verset 4. Il parle d'avoir confiance en la chair, et voici pourquoi. Le verset 5. Moi, circoncis le huitième jour, qu'il mentionne. Pas le neuvième, ni le dixième. Le huitième jour, il mentionne d'une précision au scalpel, on peut pas dire, disons. De la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant au zèle, persécuteur de l'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Cet homme était comme un de ces coureurs marathoniens ayant un parcours parfait, laissant tous les autres derrière dans la poussière. S'il y a quelqu'un qui peut y arriver en gardant la loi par les œuvres, c'était Saul de Tarse. Si vous aviez à miser sur quelqu'un, ce serait sur lui comme étant vraisemblablement celui qui peut y arriver. Vraisemblablement le plus en termes d'accomplissement, de performance. Il avait une grande éthique de travail lorsqu'il en venait à la religion. Mais voyez ce qu'il dit ici dans Galates 2, 19. Nous y revenons pour comprendre la loi et de sa relation, la relation de Paul, en parlant de Paul, sa relation à la loi et de notre relation à la loi. Il a quelque chose à dire définitivement concernant la loi. Et remarquez le mot qu'il utilise, le mot « mort ». Il ne dit pas que la loi est morte, n'est-ce pas? Il dit « je suis mort ». C'est une grosse différence. Je suis mort à la loi. La loi dans laquelle il en était conscient en termes de la garder, d'y obéir, de lutter pour la loi, de s'en vanter, d'en avoir une grande connaissance, une grande érudition. Il dit « je suis mort ». Dead. Qu'est-ce qu'il veut dire? Souvent, c'est le cas lorsque vous prenez votre Bible. Vous devez comprendre le verset dans le contexte. Ça, on le mentionne assez souvent, et Marcel y revient aussi. Et le co-texte. Le contexte ou le co-texte. Comme souvent, le mot est utilisé pour mettre l'emphase littéralement sur le contexte en opposition au contexte historique plus large. Ces mots que nous retrouvons ici au verset 19 doivent être gardés dans le contexte immédiat. C'est très simple de prendre un texte de l'Écriture et de mal l'appliquer. Ça, on le voit assez souvent. Un exemple de cela, quelqu'un lisait dans une revue qui disait « Lorsque la radio est apparue, il y a plusieurs chrétiens qui croyaient que la radio était un péché. » Vous savez pourquoi? Ils avaient un texte. Il nous est dit dans l'Écriture, il est écrit dans Éphésiens 2, 2, « Selon le prince de la puissance de l'air. » Alors, ils voyaient dans la radio le diable. Le diable qui est le prince de la puissance de l'air. C'est ce qu'il est dit. Donc, ils ont sorti un texte hors de son contexte. Et c'est ce qui est arrivé ici dans le verset 19, ce que nous entendons dire, « Je suis mort à la loi, et par cela, je n'ai aucune obligation de garder la loi morale de Dieu. » C'est un tordage total des Écritures. Paul ne parle pas ici de sanctification, mais de quoi est-ce qu'il parle? Eh bien, en lisant les chapitres 1 et 2 de Galates, Il parle de justification, notre statut légal devant Dieu. La justification, c'est un statut légal devant Dieu. C'est Dieu qui nous déclare juste. Donc, c'est une déclaration, un statut légal, un décret de Dieu. Il parle de la mauvaise manière et de la bonne manière de la justification. Lorsque je dis en lisant les chapitres 1 et 2, Paul parle de la mauvaise manière et de la bonne manière de la justification. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi, qui est la mauvaise manière. Nous sommes justifiés par la foi en Christ, qui est le bon moyen, la bonne façon. Il a une main, pouvons-nous dire, sur la loi, et il a l'autre main sur la justification, non pas la sanctification. Et il dit, « Je suis mort à la loi. » Lorsque j'en viens à essayer de gagner mon chemin vers le ciel par la justification, je suis mort à la loi. Je réalise que je ne peux lever le petit doigt. Un homme mort ne peut lever le petit doigt. Lorsqu'il vient à garder la loi comme moyen de la justification, je ne peux cligner d'un œil. En termes de plaire, de gagner des mérites, je suis mort à la loi. Lorsque j'en viens à garder la loi aussi loin que vouloir plaire à Dieu et gagner mon ciel, je ne peux même pas bouger un orteil. Je suis mort à la loi. Un mort, il est mort. Non plus de lutte, non plus de tentative, non plus d'œuvre lorsqu'il en vient à gagner ma justification. Je suis mort à tout mon extériorisme. Un mot qui est certainement pas dans le petit Robert, mais en tout cas. Je suis mort à tout mon extériorisme de garder la loi, au côté extérieur du cérémonialisme de garder la loi, au côté moraliste de garder la loi, au côté rituel de garder la loi en tant que base et fondement de ma justification. Je suis mort à la loi. Il utilise un mot énergique, décidé. C'est très personnel et cela est vrai pour chaque enfant de Dieu. Si vous êtes un chrétien, vous êtes mort à la loi. Le chant Rock of Age de M. Toplady, dans les années 1800 à quelques. Et en anglais, Rock of Age, c'est rock séculaire. Je pense qu'on a dans notre livret de chant. Il y a des strophes qui nous disent, peut-être que c'est pas la traduction, mais moi j'ai traduit comme, mettons, mot à mot, là. Rien dans les mains que je ne puisse apporter, sinon que m'accrocher à la croix. Non pas mon œuvre, mais son œuvre. Non pas ma justice, mais sa justice. Le chrétien est mort à la loi. Ce qui nous amène à notre deuxième point, vous êtes mort par la loi. Galates 2, 19, dans la version originale, lorsqu'on regarde dans la Darby, et lorsqu'on prend les mots et qu'on les décortique, ça nous dit, on lit ça comme suit. Moi, le mot ego en grec c'est moi. Le mot moi en grec c'est ego. Le mot par, le mot dia c'est la préposition. La loi nomos, ce qui donne un peu comme si on a, dans nos traductions on a je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Mais si on met mot à mot, c'est par la loi, à la loi, je suis mort. Alors si on traduit directement grec directement, par la loi, à la loi, je suis mort. C'est de la chirurgie neurologique en regard de la loi et comment elle est en relation avec l'Évangile. Paul décrit son expérience de conversion comme une mort à la loi par la loi. Il mentionne deux choses importantes concernant la loi. Sa futilité. Elle ne peut me sauver. Et la deuxième chose qu'il mentionne concernant la loi, son instrumentalité, son moyen, son action. La loi a joué un rôle dans ma mort. Pensons encore concernant les Juifs, son respect pour la loi. Ils regardent à la loi comme un cadeau de Noël, magnifiquement emballé, un cadeau donné aux Juifs. Ils s'enorgueillissent de la loi, ils aiment la loi. Mais un jour, Saul de Tarse, Saul le pharisien, hébreu, né d'hébreu, a trouvé que la loi n'était pas si belle et emballée dans du papier si beau, enjolivée de rubans multicolores. Mais c'était une épée qui coupe profondément et qui tue. C'est ce qu'elle fait, l'épée, elle tue. Vous voyez, la loi est une épée dans la main de l'esprit pour tuer les pécheurs orgueilleux. Un peu comme David a coupé la tête de Goliath. Goliath qui se tardait dans 1 Samuel 17, 51, qui se vantait d'être super puissant, d'être super fort. Il était costaud, il était énorme. Alors, David lui a coupé, lui l'a affronté après l'avoir assommé avec une pierre, pas l'avoir tué avec une pierre, il lui a coupé la tête. Donc la loi est utilisée pour couper la tête orgueilleuse des pécheurs. Paul, dans Romains 7, mentionne la loi plusieurs fois dans ce chapitre. C'est un chapitre clé. Il souligne ici qu'il est mort par la loi. Il dit beaucoup de choses négatives concernant la loi dans Romains. Dans Romains 3, il mentionne la concernant étant incapable de justifier, apportant la colère. Dans Romains 4, elle augmente la transgression. Dans Romains 5 et 6, comme n'étant plus sous la loi, une mention négative à profusion, laissant l'impression que la loi n'est pas une bonne chose ou presque une mauvaise chose. Mais lorsque vous en venez à Romains 7, 12, il dit que la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Ainsi, nous avons besoin de lire tout l'Épître aux Romains et de regarder tout ce qui est dit concernant la loi. Mais le problème n'est pas la loi. Le problème, c'est le pécheur. La loi a une place vitale, cruciale dans la vie de l'incroyant et dans la vie du croyant. Et Romains 7 va nous aider à comprendre ces deux éléments. Il nous laisse voir Paul lorsqu'il était un incroyant et comment la loi l'a aidé. Et ensuite, il nous laissera voir comment il est un croyant et qu'il prend plaisir à la loi, dans la loi. Ainsi, il nous fait voir avant et après dans Romains 7. C'est ce que vous devez comprendre, c'est une expérience avant et après en ce qui regarde sa conversion et sa relation à la loi. Notez ce qu'il dit dans Romains 7, 7. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, et ici il cite le 10e commandement, « Tu ne convoiteras point ». C'était la loi, par la loi, que Paul le pharisien en est venu à se voir lui-même un pécheur. En particulier le 10e commandement, « Tu ne convoiteras pas », qui devint l'épée aiguisée dans la main du Saint-Esprit pour le tuer. Le 10e commandement, c'est intéressant dans le sens qu'il met l'accent sur le cœur. Et on ne peut pas lire le 10e commandement et garder le focus sur l'extérieur, l'aspect externe. Vous pouvez avec les autres, on peut le faire avec les autres commandements, mais pas avec le 10e. Les autres commandements, on peut, mettons, respecte ton père et ta mère. Tu peux respecter ton père et ta mère, puis être plein de colère et d'amertume dans ton cœur. et puis dire en même temps, ben, je garde le cinquième commandement, je respecte mon père et ma mère, mais dans le fond de ton cœur, t'es plein d'amertume et de colère. Ou dire du septième commandement, dire qu'on garde le septième commandement, je n'ai pas couché avec une autre femme, je suis fidèle à ma femme, OK, mais avez-vous convoité dans votre cœur? Oh! Vous voyez, cela a une application sur le cœur. Il traite avec le cœur. Mais le dixième commandement, tu ne convoiteras rien. Il traite avec nos inclinations, avec nos désirs. Il traite directement avec le cœur. Il met le focus sur l'intérieur de manière que les autres, les neuf autres commandements, ne font pas initialement. Ils le font, mais initialement, vous pouvez les lire de manière superficielle. Les pharisiens étaient forts en faisant cela. Mais lorsqu'il en vint au dixième commandement, Paul dit « Je ne peux échapper à la pointe de l'épée ». Il pensait qu'il était réellement un bon gars jusqu'à ce que l'épée de l'esprit le poignarde. Exemple, c'est un peu comme cet homme qui a construit un beau bateau, un très beau bateau à voile. Il utilise tous les matériaux de très haute qualité. Le bois, le brass, l'argent, l'or, tout est top-notch, comme on peut dire. Hein. Tu sais, tout est au poil. Tout est bien frotté, puis tout paraît bien, puis tout est bien shiny. Je suis un pharisien, je suis sans reproche, je garde la loi, j'ai été circoncis, j'obéis à toutes les règles, à toutes les cérémonies, à tous les rituels. Et Paul prend ce bateau à voile et s'en va en haute mer de la religion, affronte le vent de la mer. Vous pouvez voir Paul au gouvernail, se pavanant, se vantant, quel plaisancier! Il est un homme qui est en contrôle de sa propre destinée. Mais soudainement, le bateau frappe un iceberg, comme le Titanic. C'est sûr que l'histoire est quelque peu arrangée de façon moderne. Donc, il frappe un iceberg comme le Titanic et commence à sombrer. Et Paul réalise qu'il n'y a pas d'issue pour aller au ciel en naviguant avec ce bateau. Il va couler et il n'y a pas de bouée de sauvetage dans ce bateau. Qui va le sauver? Seulement Christ peut le faire. Il doit crier à Jésus-Christ. « Sauve-moi, un pauvre naufragé perdu, pécheur méritant la colère. Si vous ne criez pas à Christ, vous allez couler en enfer. » Vous voyez ce que la loi fait. La loi a pointé son doigt vers Paul. Et vous vous rappelez comment la loi a pointé son doigt vers David dans Samuel 2, 12, 7, lorsque Nathan lui a conté cette énigme concernant cet homme. Nathan a pointé son doigt vers David et a dit « Tu es cet homme. » La loi de Dieu a fait cela pour Saul de Tarse et a laissé une profonde entaille sur son âme. Elle l'a forcé à regarder à l'intérieur et de voir qu'il est un pécheur. Mort à la loi, par la loi. Ce qui nous amène à notre troisième point, vous êtes vivant pour Dieu. Le verset 19, la partie B, vous avez une préposition, afin de. Afin de vivre pour Dieu. Le mot grec zonai pour vie. Ainsi, vous allez de la négation de la mort en allant vers le positif pour la vie. L'homme qui est mort à la loi, par la loi, a commencé à vivre. Lorsque vous pensez à la mort, vous pensez que tout est fini, n'est-ce pas? Dans le sens de l'élément humain, de vivre sur la terre, vous pensez que c'est fini. Vous mourrez, eh bien vous mourrez, point final, c'est fini. Vous n'êtes plus ici. Mais pour Paul, c'était le commencement de la vie. C'est vrai. Lorsqu'il est mort à la loi, c'était le commencement de la vie. La Bible parle de la vie chrétienne comme une nouvelle naissance, une nouvelle création, une résurrection. Quelque chose de merveilleux est arrivé. Lorsque Dieu nous donne de nouveaux yeux pour le voir en tant que le seul sauveur du monde, lorsque nous voyons Christ tel qu'il est, celui qui a absorbé la colère de Dieu, celui qui a porté nos péchés, nous le voyons tel qu'il est, l'homme parfait sans tache, justice parfaite de Dieu. Nous voyons qu'il est tout ce que nous avons besoin. Son sang m'a lavé de tout péché. Sa justice m'a recouverte parfaitement. Et il a été fait sur mesure pour moi. Lorsqu'un pécheur regarde à Christ par la foi, et seulement par la foi, Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, il reçoit la vie, une vie abondante, une vie toute différente. Il y a ce film, peut-être avez-vous déjà vu ce film, It's a Wonderful Life. C'est avec James Stewart dans les années, je pense que c'est dans les années 40, quelque chose comme ça. Ça raconte l'histoire d'un homme prospère, puis que là, il est en crise, puis il est en désespoir, puis finalement, il est sur un pont prêt à se suicider. Puis là, un ange vient vers lui, puis là, ben, il lui montre la vie merveilleuse qu'il aurait vécue s'il avait vécu. Mais en fait, c'est une projection. Finalement, il revient à lui, à ses esprits. Et puis là, il continue à vivre et donc il vit une vie, c'est ça le titre, une vie, a wonderful life, une vie belle et merveilleuse. Paul dit, je suis mort à la loi. J'ai sauté en bas du pont de ma propre justice. J'ai sauté en bas du pont de la justification par les œuvres et j'ai commencé à vivre. Il est mort à cette ancienne manière de vivre, de poursuite de performance par ma propre justice des œuvres, et c'est seulement alors qu'il a commencé à vivre. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Si vous êtes un chrétien, vous êtes mort à la loi, par la loi, vivant pour Dieu. La question que j'ai pour chacun assis ici ce matin, êtes-vous chrétien? Non pas un chrétien de manière qu'un chrétien typique est défini. Vous savez comment un chrétien typique est défini? Il est souvent défini un chrétien qui travaille à ses œuvres et qui dit, eh bien, j'ai été baptisé, oh, je suis un chrétien, je lis ma Bible, je suis un chrétien, je ne prends jamais de drogue, je suis un chrétien, je prie, j'aime parler de théologie, je suis un chrétien. J'aime parler à d'autres de Jésus. Eh bien, vous pouvez faire toutes ces choses et aller en enfer. Vous pouvez être un bon pharisien et finir en enfer. Vous pouvez faire toutes ces choses et naviguer sur votre bateau en haute mer comme seul le pharisien, mais vous n'irez pas au ciel et le bateau va couler. Tôt ou tard, il va couler. Peut-être Dieu, dans sa grande bonté et sa grande providence et sa grande miséricorde, a fait que vous soyez ici et que vous entendiez, parce qu'il veut que vous soyez frappiez, que vous frappiez le iceberg. Il veut que vous soyez ici et entendiez, afin que vous soyez exposés à qui vous êtes vraiment. Vous pensez que vous êtes une bonne personne en route pour le ciel, mais en réalité, vous naviguez sur un bateau en route pour la destruction. Le bateau va couler et votre espérance ne sera pas que vous vous trouviez coulant, sombrant au jour du jugement, mais comme Paul, vous rencontrez Christ et vous réalisez maintenant que ce que je fais et tout ce que je fais ne peut me sauver. Seulement Christ et ce qu'il a fait peut me sauver. Ainsi, ce que vous avez besoin d'entendre, vous avez besoin de sentir l'épée, vous avez besoin de regarder à la loi morale de Dieu et de vous l'appliquer. La loi de Dieu écoute chaque mot que vous avez déjà mentionné. La loi de Dieu connaît chaque pensée que vous avez eue, en quelque endroit que ce soit. Dieu et sa loi prennent compte de tout ce que vous avez dit et que vous ayez pensé. Pouvez-vous dire que vous êtes parfait? Pouvez-vous dire que vous n'avez jamais convoité, jamais été mécontent, jamais eu un moment d'apitoiement sur vous? Jamais que vous ne vous êtes jamais plaint avec votre langue, que vous n'avez jamais eu de fausses pensées, jamais eu de pensées orgueilleuses, c'est l'épée. Si vous vous regardez dans le miroir de la sainte loi de Dieu, vous devez en arriver à cette douloureuse évaluation de vous-même. Je suis un pécheur. Et de prendre le cadeau de Christ, la vie éternelle. Vous voyez, Jésus-Christ s'est offert lui-même pour chaque pécheur. Il veut que vous veniez à lui en désespoir, de venir à lui en pensant et réalisant « Non, je ne peux pas me sauver moi-même. Il n'y a rien que je puisse faire. » Jésus-Christ, cela doit être toi et seulement toi, et ce que tu as fait, sinon je ne serai jamais sauvé. La bonne nouvelle de l'Évangile est que Jésus-Christ a fait ce que ni vous ni moi ne pouvions faire. Il a obéi parfaitement à la loi de Dieu. Chaque mot, chaque pensée, tout ce qu'il a fait parfaitement en ligne avec les 10 commandements. C'est pourquoi vous avez besoin d'un sauveur, de Jésus-Christ. Vous avez besoin de sa justice, de son sang pour vous laver et vous purifier de tous vos péchés. Pécheur, non pas par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Vous croyez en lui dès maintenant et vous commencez à vivre. La parole de Dieu nous dit, « En Adam, nous sommes tous morts. En Christ, nous vivons. » Vous êtes venu ce matin un pécheur mort. Vous pouvez quitter vivant pour Dieu, mais vous devez mourir à votre orgueil, à votre propre justice. Vous devez mourir à la loi, par la loi, afin de vivre pour Dieu. Prions.